Michel Barrière, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour Passion Polar. Vous venez de faire paraître un nouveau livre, un inédit, Meurtre au Ritz, qui se passe en 1896, en plein milieu de l'affaire de 1898, en plein cœur de l'affaire Dreyfus. Vous n'aviez pas dit que vous alliez arrêter la dynastie des Savoisis, que le 19e siècle, vous n'y rentreriez pas?
Ah oui, mais entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, vous savez très bien qu'il y a une très 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 grande marge. Hein. Alors, non, je continue la dynastie Savoisie, je vais peut-être même encore aller plus loin. Alors oui, cet inédit au livre de poche, donc qui s'appelle Meurtre au Ritz, et qui se passe en 1898, très important, parce que l'affaire Dreyfus, mais surtout février 1898, j'accuse de Zola. Donc ça, je ne pouvais pas louper ça. Et puis je ne pouvais pas louper ça, nous aussi, parce que c'était en juin 1898, l'ouverture du Ritz à Paris, avec bien entendu César Ritz, mais aussi la cuisine d'Auguste Escoffier.
Alors les personnages, Diane, effectivement, c'est un personnage féminin incroyable, avec un tempérament de feu, elle veut devenir journaliste, elle arrive à intégrer un journal féminin composé uniquement que de femmes. Les femmes ont vraiment un rôle crucial dans ce roman-là aussi.
Alors oui, c'est absolument passionnant, parce que, moi je voulais, oui, en faire une féministe de la première heure, hein, et à l'occasion, je me suis aperçue que ce journal, donc qui s'appelait La Fronde, qui a existé à peu près 4-5 ans, qui était un quotidien et qui était fait que par des femmes. Alors, le seul homme qui travaillait était l'homme de ménage, simplement parce que s'il y avait eu d'autres hommes travaillant dans le journal, on aurait dit que c'était les hommes qui faisaient les papiers, les articles, et que les femmes n'auraient été là que pour signer. Mais dans ce journal, vous avez des personnalités extraordinaires. Hein. Vous avez Séverine, la grande journaliste, l'ex-secrétaire de Jules Vallès, qui est un personnage fabuleux. Vous avez Marguerite Durand, qui est aussi justement la créatrice, la fondatrice de ce journal, qui est aussi quelqu'un de formidable. Donc moi, ça m'a à la fois bien plu et puis beaucoup amusé de suivre cette aventure-là, et puis de faire de Diane, donc une toute jeune journaliste, tout feu, tout flamme, et qui va effectivement faire son travail de journaliste, et même un peu au-delà de ce qu'on attendait d'elle.
Alors, elles sont là, un peu le pendant, je dirais, des hommes en cuisine quelque part, parce qu'il n'y a pas de femmes cuisinières vraiment reconnues ou reconnues comme telles encore à l'époque, et c'est comme un faire-valoir aussi du pouvoir des femmes dans ce livre-là.
Mais c'est oui, toujours pas de femmes, toujours des brigades d'hommes, et avec justement des écrits très 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 méchants sur les femmes cuisinières qui sont, ma foi, justement tout juste bonnes à faire une cuisine familiale, et qu'à aucun moment on n'aurait pu imaginer qu'une femme puisse être un véritable chef. Bon, alors Dieu merci, 30 ans plus tard, ça sera plus le cas, puisqu'on aura véritablement des femmes cuisinières et qui obtiendront des étoiles Michelin. Mais il faudra ensuite attendre, je crois, le début des années 2000 pour avoir de nouveau une femme étoilée des reines Sophie Pic. Donc oui, la place des femmes est totalement négligeable dans la cuisine, au moins dans la cuisine française. Dans l'histoire de la cuisine anglaise, on a des femmes beaucoup plus tôt, et puis d'une manière beaucoup plus présente. Donc voilà, ça c'est notre, hélas, notre particularisme français.
Il y a quelque chose de très important dans ce roman, c'est tout le background, comme on dit, l'arrière-fond historique, très important, notamment qui est teinté d'antisémitisme, avec l'affaire Dreyfus bien sûr, de racisme et de nationalisme, un nationalisme flagrant qui va même jusqu'à se greffer sur la cuisine. Et ça, c'est quelque chose qui est assez méconnu aussi.
Mais absolument, et ça moi aussi, je savais un petit peu ça, mais j'ai été tout de même complètement hallucinée quand j'ai découvert les écrits, puisque moi je travaille sur les sources primaires, c'est-à-dire ce qu'ont vraiment dit les gens. Bon, ce que je mets dans la bouche de Léon Daudet ou d'autres personnages justement d'extrême droite très nationaliste, j'ai rien inventé, c'est vraiment ce qu'ils ont dit, et donc c'est absolument terrifiant, parce que oui, là on est, la France est au bord de la guerre civile à cause de l'affaire Dreyfus, et donc on voit se développer des haines, les haines les plus moisies, les plus rances, et donc avec une violence assez extraordinaire, et oui, et ces nationalistes ont vraiment pris en otage la cuisine, alors en sachant qu'ils ont tout faux, dans la mesure où notre bonne cuisine française, elle n'est faite que d'apports Il y a bien sûr qu'il y a des ingrédients nationaux, entre guillemets, mais la plupart viennent d'ailleurs, et puis les savoir-faire aussi. Donc c'est totalement, à la fois c'est stupide, ben, c'est vraiment bête de parler de ce trésor qui n'appartiendrait, qui n'aurait été fait que par nous. Donc ça, bon, c'est quelque chose de très important, parce que ça a existé et ça continue à exister, parce que quand on parle très souvent cuisine de terroir ou produits de terroir, on s'aperçoit que tout ça c'est faux, que l'antériorité des produits n'est pas, justement, n'existe pas, ou que justement ils viennent d'ailleurs. Donc moi c'est un petit peu justement aussi de montrer aux gens qu'il faut être très prudent, il faut avoir un certain recul justement par rapport à tous ces discours-là, de manière à être un petit peu plus honnête. Hein.
Est-ce que le contexte actuel, parce que ces thématiques-là sont quand même très présentes de nos jours, est-ce que ce contexte actuel-là a nourri votre roman ou pas ?
Ah ben, moi, j'ai été très mal à l'aise. Hein. Parce que c'est vrai que quand on est au XVIe, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, bien sûr, il y a des tas de choses qui peuvent se rattacher à notre époque, sur des pensées, sur des prises de position. Mais alors là, moi, j'ai vraiment eu un malaise, un très, très grand malaise, parce que ce que je lisais était très, très peu éloigné de ce qu'on peut lire de nos jours. Et en plus, c'est aussi la crainte, parce que tout ça, ça a développé des choses abominables. Et donc de reconnaître actuellement des paroles, des écrits, donc il y a un peu plus d'un siècle, ça m'a très souvent mis très 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 mal à l'aise. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai eu un petit peu de mal même à respirer dans ma propre écriture.
Oui, il y a des personnages qui sont très forts aussi dans le côté obscur. Je pense notamment à ceux, les bouchers que vous faites apparaître dans un contexte effroyable. On a peine à imaginer de telles scènes parfois, et même de tels propos. Et pourtant, c'est là. Et est-ce que vous avez été quelque part en deçà de la vérité ?
Eh bien oui, parce que justement, donc ces bouchers de la Villette, armés de leurs chaussures à clous, enfin de leurs chaussures ferrées, de leurs bâtons à clous, c'était eux qui venaient faire le coup de main pour casser du pro-Dreyfusard, pour casser de l'anarchiste, mais vraiment casser. Hein. C'était des manifestations très très violentes. Donc c'était les hommes de main. De ces mouvements nationalistes. Alors c'est vrai déjà que le milieu de la Villette, ben c'est les abattoirs, c'est déjà très rude, c'est le sang, c'est les viscères, c'est la merde, c'est vraiment des choses abominables. Puis on est à la fin du 19e siècle, hein, donc les choses se passent d'une manière... Alors je ne veux pas dire que les abattoirs actuellement soient plus recommandables, enfin bon, là il y a vraiment une très très grande violence. Et c'est vrai que moi, j'ai eu accès à des documents qui racontaient notamment le travail des femmes dans ces abattoirs de la Villette. Je m'en suis fait l'écho, mais beaucoup moins que ce que je ne pensais, parce que je crois que les lecteurs, justement en lisant, auraient été aussi écœurés que moi j'aurais pu l'être. Et c'est vrai que ça aurait pu susciter un malaise. Donc c'est vrai que je suis restée des fois effectivement en deçà de la réalité.
On va passer, si vous le voulez bien, à quelque chose de plus réjouissant, aux recettes que vous avez l'habitude de laisser dans vos livres. Au début, il n'y en avait pas beaucoup, et on a vu au fil des livres que vous avez écrits dans la dynastie Savoisie, ou alors avec Quentin Duménil, qu'il y avait beaucoup plus de recettes. Est-ce que vous avez pris goût à nous transmettre vos recettes à vous ?
Alors c'est qu'au départ, je n'étais pas tout à fait sûre de moi, dans la mesure où c'est des recettes... très souvent exotique, et que je me disais peut-être que les lecteurs vont trouver ça, vont pas s'y intéresser, et puis il se trouve que les lecteurs s'y intéressent vraiment. Donc maintenant, on peut pas dire que mes livres sont des livres de recettes, mais c'est vrai que j'ai bien doublé hein, le nombre de recettes. Et dans Meurtre à la pomme d'or, je dois en avoir une vingtaine. Bon, maintenant, j'en ai 40, des fois j'en ai même un peu plus. Hein. Mais alors, c'est vrai que là, les recettes d'Escoffier, j'ai eu un peu de mal, dans le sens où la cuisine d'Escoffier, si vous n'avez pas 3 charrettes de foie gras, 2 tombereaux de truffes et 24 barils de caviar, vous ne ferez pas grand-chose.
La cuisine des palaces.
Exactement. Si vous n'avez pas aussi une brigade de 80 cuisiniers, vous aurez du mal. Donc c'est vrai que dans son guide culinaire, où il y a des milliers de recettes, moi je me suis contentée, enfin j'ai essayé de trouver les recettes familiales qui pouvaient être faites justement à la maison. parce qu'autrement c'est pas possible, hein, ou alors ça, il faudrait que j'aie que des lecteurs milliardaires, ce qui n'est pas le cas. Oui, alors c'est peut-être des recettes, moi, qui m'intéressent moins en termes de cuisine que les recettes du 16e ou du Moyen-Âge ou du 17e, qui sont véritablement autre chose, qui nous amène vers un autre pays culinaire. Là, disons que c'est des choses qu'on connaît.
Voilà, mais qui participent aussi à l'histoire de l'alimentation. Absolument. Que vous vous évertuez encore heureux à vouloir transmettre.
Voilà, notre culture culinaire, et ça, c'est sûr que ça fait partie de toutes ces strates qui depuis l'Antiquité, hein, font que on a dans nos assiettes des choses qu'on reconnaît, qu'on s'est approprié. Donc là, oui, c'est cette cuisine de palace, voilà, on a tout dit, donc relativement peu abordable par le commun des mortels.
Michel Barrière, merci beaucoup pour cet entretien. J'espère qu'on aura l'occasion de découvrir votre nouvel ouvrage très bientôt, que ce soit dans la dynastie des Savoisy ou avec Quentin Duménil, bien sûr. Merci.
Merci à vous.